Je voulais remercier bien sûr les organisateurs de m'avoir invité à participer à ce colloque vraiment assez génial. Alors, je ne sais pas si je dois les remercier du titre qu'ils m'ont proposé, très, très ambitieux, qui laisse croire que je suis un spécialiste des origines de la vie, ce qui n'est pas vraiment le cas. Alors j'aurais pu leur proposer de changer de titre, mais bon, j'ai décidé d'essayer de relever le défi. Peut-être juste d'ajouter de la matière organique à la vie moderne pour être plus proche de mes centres d'intérêt. Ceci dit, ça rallonge encore l'exposé, donc je ne suis pas du tout sûr que je vais arriver jusqu'à la vie moderne. Je m'arrêterai quand il sera temps. Voilà, alors en fait, je vais commencer quand même par directement attaquer la question du qu'est-ce que la vie, parce que j'ai récemment travaillé sur un article pour un numéro spécial dans un journal de philosophie sur les virus, et bien sûr, comme je m'intéresse aux virus, tout de suite, la question se pose, est-ce que les virus sont vivants ou pas, etc. Et en rédigeant ce texte, bon, je me suis aperçu qu'en fait, c'était vraiment, effectivement, quasiment impossible de définir un organisme vivant, parce que, par exemple, si on dit que les virus sont vivants, moi j'aime bien l'idée, a priori, parce que j'aime bien les virus, le plus petit virus, il a deux gènes, le plus petit plasmide, il a un gène, je reviendrai sur cette comparaison par la suite, donc ça voudrait dire que soit les plasmides sont également vivants, soit ça voudrait dire qu'un gène, là, le gène codant pour la capside, est suffisant pour passer du vivant au non-vivant, ce qui est un petit peu absurde. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un exemple finalement très frappant qui montre la difficulté du problème, c'est celui des mitochondries. Si vous demandez aux biologistes est-ce qu'une bactérie intracellulaire est vivante, tous vous diront bien c'est évident, une bactérie c'est vivant, même si elle est intracellulaire. Si vous leur demandez est-ce qu'une mitochondrie est vivante, les grandes majorités vous diront ben non, c'est pas vivant une mitochondrie, c'est évident, ça manque d'autonomie, etc. Sachant que les mitochondries proviennent des bactéries intracellulaires par un processus évolutif, si on se pose la question à quel moment la bactérie intracellulaire est devenue non vivante, est-ce que c'est lorsqu'elle a perdu un gène en particulier? Bien sûr, on retombe sur quelque chose d'assez absurde. Et donc j'en ai conclu qu'en fait, il est impossible de définir la frontière entre le vivant et le non-vivant, basée sur ce type de caractéristiques. Alors je suis arrivé à dire, il y a deux solutions pour aller au-delà de cette impasse. Soit on ne parle plus de vivant en biologie et de vie en biologie. C'est un petit peu embêtant, puisque bio, c'est la vie. Soit on a une définition très large et un peu provocatrice de ce qu'est le vivant. Et donc j'ai proposé, alors mes diapos seront en anglais, hein, je m'excuse, mais bon, si jamais il y a quelqu'un qui ne parle pas français dans la salle, ce sera bien. J'ai proposé de considérer toutes les entités biologiques qui participent à un processus vivant comme étant vivantes. Donc les protéines, les chromosomes, les plasmides, etc. peuvent être vivants finalement, tant qu'ils participent à un processus biologique. Pour revenir sur l'exposé tout à l'heure en droit, je dirais par exemple que l'ADN dans une biobanque n'est pas vivant. Mais l'ADN dans une cellule peut être vivant, tout au moins un chromosome. Voilà, donc une possibilité donc, de considérer toutes les entités biologiques comme vivantes aussi longtemps qu'elles participent au processus de la vie et qu'elles restent opérationnelles, donc qu'elles ne sont pas mortes. Donc il y a l'opposition entre la mort et la vie dans le contexte de ce processus. Alors bien sûr, ça pose pas mal de questions que je ne vais pas trop développer. S'il y a des questions peut-être par la suite, qu'est-ce qu'une entité vivante On peut aborder un certain nombre de questions philosophiques. Par exemple, je pense qu'un gène n'est pas vivant, parce qu'un gène, ce n'est pas un individual au sens philosophique du terme, contrairement à un chromosome ou à une protéine. On ne peut pas définir bien sa frontière, ce n'est pas quelque chose. Et bon, mais je ne vais pas développer trop ça maintenant. Alors, bon, là, d'autres définitions de la vie. Ça a déjà été dit, la vie est un processus historique. Je pense que c'est effectivement quelque chose de très important. Une forme spécifique de la matière qui est apparue sur notre planète. C'est-à-dire que si on découvre de la vie, entre guillemets, sur une autre planète, est-ce qu'il faudra trouver un autre nom ou est-ce qu'il faudra chercher les points communs en disant « la vie, c'est ce qui est commun ». La vie est caractérisée par la production d'individus qui sont cellulaires, d'individus cellulaires et qui évoluent par diversification, multiplication et sélection, c'est Darwin, etc. Alors tout ça, bien sûr, on voudrait savoir comment ça a commencé, et je vous dis tout de suite, j'en sais rien, pas plus que vous. On a des pistes, on a des indices, on en a entendu, là, on vient d'entendre deux exposés particulièrement excitants par rapport à la façon dont la matière organique peut apparaître déjà dans l'espace, des acides aminés, du ribose, ça c'est vraiment important. En fait, on ne sait pas. Un point très important qui n'a pas été discuté jusque-là, et justement je vais y insister, c'est la compartimentalisation. À mon avis, on ne peut pas avoir de vie vraiment sans compartimentalisation, c'est quelque chose d'absolument essentiel, en ce sens qu'on a besoin de formation d'individus qui peuvent se reproduire, qui peuvent transmettre à un moment donné des caractères, se multiplier, se diversifier pour pouvoir justement faire fonctionner l'évolution darwinienne. On a besoin de former des systèmes thermodynamiquement ouverts qui peuvent échanger de l'énergie et effectivement avoir une réduction d'entropie à l'intérieur du système. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Dans les modèles qui font apparaître la vie à la surface de minéraux, par exemple, ce n'est pas vraiment de la vie tant, à mon avis, tant de mon point de vue, qu'on n'a pas des entités individuelles qui sont délimitées plus ou moins par une membrane, je dirais. Donc pour moi, l'origine de la vie, ça serait vraiment en fait l'origine des premières cellules, qui vont être bien sûr très très différents des cellules modernes. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne pas mal dans beaucoup de discussions avec des collègues et dans la littérature. Très souvent, il y a une confusion entre cellules et cellules modernes. Et par exemple, beaucoup de collègues pensent que, d'après moi, les virus seraient apparus avant les cellules, parce que je pense qu'effectivement, les virus sont apparus avant les cellules modernes. Mais c'est complètement idiot de penser que les virus sont apparus avant les cellules, puisque ce sont des parasites obligatoires. Mais vous voyez cette confusion qui se fait entre cellules et cellules modernes. Quand je dis que la vie est apparue avec l'apparition des premières cellules, ou protocellules, on est vraiment très loin des cellules modernes. Donc on a besoin d'un métabolisme très, très tôt, d'un métabolisme qui va permettre l'apparition d'énergie, et ça, François Guyot a donné des pistes par rapport justement à l'apparition de ce métabolisme. Et ce qu'il nous faudrait, en fait, et ce qu'on n'a pas, à ma connaissance, c'est d'avoir des modèles d'explication de métabolisme primitif qui puissent aboutir à la formation non seulement de ribose, mais en fait de ribonucléotides pour arriver à l'ARN. Hein. Ou à un autre matériel génétique qui aurait précédé l'ARN, mais pour le moment, non. Et c'est vraiment cela qui serait une compréhension vraiment de la vie. Alors ce métabolisme primitif, il est nécessairement connecté à la géochimie, mais un certain nombre d'auteurs font l'impasse un petit peu, vont directement de la géochimie à ce métabolisme, sans passer par le côté de la compartimentalisation et le côté de la formation d'une protocellule. Et ça, je pense que c'est ce lien-là qui est vraiment très important à faire. Tant qu'on reste au niveau de la géochimie, mais qu'on n'a pas encore arrivé à avoir la protocellule, il nous manque un élément essentiel. Alors, ces premières étapes, ça peut être un petit peu l'image des vésicules. Il y a un regain d'intérêt considérable aujourd'hui pour la production de vésicules par toutes les cellules. Toutes les cellules de bactéries, d'archées et de caryotes produisent des vésicules extracellulaires, intracellulaires. Est-ce que la formation de vésicules avec des lipides tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais des molécules amphiphiles capables de former des protovésicules, certainement contenant des peptides, des minéraux, des catalyseurs minéraux. Donc on a écrit une revue récemment avec une postdoc du labo, Sylviane Dergil, dans laquelle on aborde un petit peu ce problème de façon très, 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 très schématique, en quelque sorte. Mais il y a des travaux qui sont faits aux États-Unis. Tout le monde connaît les travaux du groupe de Shostak, qui, de mon point de vue, sont vraiment parmi les plus intéressants sur la façon dont on produit les vésicules. Il y a un groupe à Strasbourg qui s'intéresse également, justement, un petit peu à la catalyse augmentée par l'interaction au niveau de surface interne des vésicules. Je pense que ça, ce sont des pistes vraiment très, très importantes, très intéressantes pour comprendre vraiment l'origine de la vie. Alors après, une fois qu'on a de l'ARN, ça c'est le grand point d'interrogation, les choses sont entre guillemets plus faciles. En tout cas, on peut commencer à définir des étapes, et c'est là-dessus que je voudrais insister en fait au cours de cette présentation, c'est qu'on ne sait pas comment la vie est apparue, mais grâce à la biologie moléculaire, et grâce au développement de la biologie moléculaire depuis la grande époque des pionniers des années 60, on peut maintenant, de mon point de vue, définir un certain nombre d'étapes dans l'évolution des premières formes de vie jusqu'à la vie moderne. On peut définir ces étapes, et je pense que très souvent ça manque en fait dans les discussions sur les origines de la vie. Ça serait pas mal d'arriver à se mettre d'accord sur un certain consensus par rapport à ces étapes, par rapport à justement préciser un petit peu qu'est-ce que l'on entend par le monde ARN. La première étape, c'est certainement, une fois qu'on a eu l'ARN, une époque où on avait des protocellules avec des ARN qui jouaient à la fois le rôle de gène et de catalyseur d'enzymes. Donc on n'avait pas forcément une différenciation entre ce qu'on appelle aujourd'hui les ribosomes et des ARN gènes. On avait déjà à cette époque certainement des sucres, des lipides, des peptides qui pouvaient jouer un rôle de catalyseur. Et une première étape, ça a été la différenciation entre les deux types d'ARN, des ARN capables de transporter, qui vont se spécialiser dans le transport de l'information génétique, donc des ribogènes, et des ARN qui vont se spécialiser dans la catalyse enzymatique des ribosomes. Il y a des gens qui ont fait des modèles, des simulations modélisées, qui montrent qu'en fait, quand on a ce type de système avec des catalyseurs et autres, on arrive automatiquement, au bout d'un moment, à cette séparation, à cette spécialisation entre gènes et catalyseurs. Et un papier, entre autres, de Gene Kunin, dans lequel il propose qu'en fait, ça corresponde à la séparation entre ARN et ADN. Moi, je pense que ce n'est pas cela l'explication de l'origine de l'ADN, j'y viendrai tout à l'heure, mais je pense que ces modèles, en fait, expliquent bien comment l'évolution a abouti à un moment donné à cette spécialisation de l'ARN entre des ARN gènes et des ARN enzymes. L'étape suivante, bien sûr, ça va être ce qui a été évoqué ce matin, c'est l'apparition du ribosome et du code génétique. Donc le ribosome, on sait aujourd'hui que c'est un ribosyme. En fait, la catalyse des acides aminés se fait par la fraction ARN du ribosome. Et donc, il faut imaginer que dans le monde ARN précédent, dont j'ai parlé, progressivement, s'est mis à évoluer cette machine à fabriquer des peptides de plus en plus gros et ensuite des petites protéines, dont certaines se sont associées au ribosome qui a grossi, etc., etc. Ça a été une étape vraiment décisive où on a, à ce moment-là, obtenu des organismes qui composaient à la fois d'ARN et de protéines. Donc ça, c'est un point très important, c'est que toutes les protéines modernes proviennent de l'ARN. C'est l'ARN qui a donné naissance aux protéines modernes. Ça, c'est un point de mon point de vue qui est... Par exemple, par rapport à la chiralité, je pense qu'on essaye trop d'imaginer des modèles vraiment comment, sur la Terre primitive, on a eu le choix des acides aminés L. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le ribosome a choisi, en fait, c'est le catalyseur en trois dimensions, a choisi, il ne prend que ces types d'acides aminés. Mais il est possible qu'avant l'apparition de ce ribosome moderne, d'autres types de mécanismes aient permis la synthèse de peptides, qui étaient peut-être des peptides avec des acides aminés droits. Enfin, on ne peut pas trop savoir. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi sur l'origine du code génétique, l'origine du ribosome. Je n'ai pas du tout le temps d'en parler et je ne suis pas du tout spécialiste. Juste comme ça, je voulais vous signaler un papier qui est sorti récemment, qui m'a été envoyé par l'étudiant qui l'a publié dans Nucleic Acid Research, où ils font intervenir une idée d'évolution du ribosome, l'origine du ribosome avec un rôle important pour les transferts messenger RNA qu'on a trouvé chez les bactéries. Bon, c'est juste comme ça pour lui faire un peu de la pub. Il m'a demandé de le faire. J'ai trouvé que son article était intéressant. Donc... Voilà. Alors, on a donc ce monde de cellules ARN qui se développe sur toute la Terre. Et je crois, comme François l'a dit, à partir du moment où la vie apparaît, elle va conquérir la planète. Donc je pense que en fait, la planète a été à une époque entièrement colonisée par des organismes avec des génomes ARN. Alors les virus là-dedans, à quel moment ils vont apparaître? Alors avec Didier Raoult, il y a quelques années, on a proposé une définition des virus en disant que les virus sont des organismes qui codent pour les capsides. Alors je suis toujours d'accord avec cette définition, Didier, plus tout à fait. Ce qui est important, c'est que dans cette définition, on parle de capside, et une capside, ça implique au moins une protéine. Hein, les plus simples des virus avec une capside, comme celui-ci, voilà, il code pour une protéine qui lui permet de faire sa capside. Les virus géants dont vous allez entendre parler, demain, certains vont avoir des centaines de protéines dans leur capside. Mais cette définition, finalement, elle est valable aussi bien pour un virus avec deux gènes que pour un virus comme le pandoravirus avec plus de 2000 gènes. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle implique quelque chose. Si on définit les virus comme des organismes produisant des virions avec au moins une protéine, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu apparaître avant les protéines, tout au moins les virus au sens moderne. Et donc ça, voilà, donc de mon point de vue, les virus sont apparus à l'époque des cellules ARN et protéines. Alors, si on définit les virus de façon beaucoup plus large comme des éléments génétiques parasites, là, et certains auteurs le font, comme Gene Kunin, on peut dire que les virus sont apparus pratiquement dès que l'on a du matériel génétique qui se réplique, on a des parasites qui vont apparaître dans le système. Mais je pense que ce n'est pas très heuristique comme définition, parce que finalement, du coup, il n'y a plus aucun lien entre ces premiers éléments génétiques parasites qu'on n'a aucune idée, et les virus actuels. Alors que si on les définit par leur capside, là, on peut faire des liens beaucoup plus intéressants. Donc voilà, l'origine des virus. Alors comment ils sont apparus? On a proposé avec Marthe Krupovic, qui travaille avec moi à l'Institut Pasteur, une hypothèse qu'on a appelée l'hypothèse Escape Hypothesis Revisited, c'est-à-dire l'hypothèse Escape Hypothesis, c'était l'idée que des fragments de génome de bactéries avaient donné des phages et que des fragments de génome d'eucaryotes avaient donné les virus eucaryotes. Ça, c'est maintenant complètement dépassé. Donc là, c'était l'idée, c'est que des fragments d'éléments génétiques de ces cellules ARN, plutôt que d'attendre que la cellule se divise à une époque où les cellules ne se divisaient peut-être pas de façon très très efficace, eh bien, s'ils trouvaient un moyen de se faire transporter pour aller infecter d'autres cellules, ça leur donnait un avantage sélectif. Donc on peut imaginer pas mal de façons de faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en étudiant la structure des protéines de capside des virus actuels, on peut remonter de ce point de vue-là dans le passé et on s'aperçoit par exemple tout de suite que les virus sont polyphylétiques. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une origine commune de tous les virus, on n'a pas un Lucas viral. On a en fait plusieurs types de protéines qui ont été utilisées depuis très longtemps pour fabriquer ces virions. Alors ici, on a, en fait, c'est une la partie de diapo que j'ai empruntée à Marthe Krupovic, où il a regroupé toutes les structures de protéines capables de former des capsides icosaédriques. Donc on voit qu'elles sont très diverses. Et parmi ces structures, on en connaît au moins deux. On en connaît au moins deux, celles qui sont soulignées par les cercles bleus et rouges, que l'on va trouver dans les capsides de protéines infectant les trois grands domaines vivants. Donc on va les trouver chez les virus infectant les bactéries, chez les virus infectant les archées et chez les virus infectant les eucaryotes. Et donc on pense aujourd'hui que ces deux grandes lignées de virus, par exemple, existaient déjà à l'époque du dernier ancêtre commun universel qu'on appelle LUCA, donc le Last Universal Common Ancestor. Donc c'est en ce sens que l'on va dire que les virus précèdent l'origine des cellules modernes, sachant qu'à l'époque de LUCA, il y avait déjà depuis très longtemps des cellules. Et l'intérêt de se focaliser sur les capsides, c'est que ça va nous permettre de classer en quelque sorte les virus en grandes superfamilles en fonction de la structure de leur virion et par rapport à leurs protéines de capsides, entre autres. On peut aussi utiliser d'autres protéines comme les ATP synthases, les ATPases de packaging. Et donc, on a proposé avec Marthe Krupovic et David Prangrejvili, effectivement, de distinguer d'un côté les organismes cellulaires que l'on va classer en fonction de leur ribosome, c'est le travail de Carl Woese, et les virus qu'on va classer en grande lignée, c'est l'idée de Dennis Bamford à Helsinki. Donc, on va pas, de notre point de vue, on ne va pas parler de quatrième, cinquième ou sixième domaine pour les virus, on va considérer qu'ils correspondent à des grandes lignées. Alors, quelques mots maintenant sur l'origine de l'ADN, puisque là, je vous ai laissé avec des cellules qui ont des protéines, des lipides, de l'ARN, donc des cellules déjà performantes, on va le voir. À un moment donné, il faut qu'on voit arriver l'ADN, donc les virus à ADN et les virus et les cellules à ADN. Bien sûr, les virus dont j'ai parlé jusqu'à présent, de mon point de vue, les premiers virus qui ont dû apparaître étaient des virus à ARN, puisqu'ils infectaient des cellules à ARN. Comment on passe donc à l'ADN. Alors, l'origine de l'ADN, il faut bien voir qu'elle implique des protéines très complexes, hein, les ribonucléotides réductases pour éliminer l'oxygène du ribose, les thymidylates synthases pour transformer le DUMP, l'uracile, la base uracile en tout cas en thymidine, les reverse transcriptases pour que le message qui était au départ sur l'ARN passe sur l'ADN, etc. Donc, ça c'est un point qui pour moi est très important, ça veut dire que l'ADN est forcément apparu dans des cellules ARN qui étaient très évoluées, capables de fabriquer des protéines très sophistiquées. Donc avec un métabolisme qui permettait à tout ce système de fonctionner de façon très efficace. Voilà, donc de mon point de vue, les protéines, les cellules ARN étaient déjà très évoluées à l'époque de la transition. On a aujourd'hui quelques exemples. Alors, on ne connaît pas de virus ARN avec des génomes complexes, très gros, mais on connaît quand même des virus ARN avec des génomes de 30 qui ont un génome de 30 kilobases, les coronavirus, qui codent par exemple pour des mécanismes de réplication très sophistiqués. J'ai découvert ça relativement récemment, ça c'est une revue sur le mécanisme de réplication de ces virus qui, non seulement ont une réplicase ARN, mais ont une ARN hélicase, une ARN des activités de proofreading basées sur des ARN exonucléases, des ARN primases, des vraiment un système qui ressemble beaucoup au système de réplication complexe des cellules ou des virus à ADN. Et donc, il y a quelques années, j'avais proposé, en fait, dans cette histoire d'apparition de l'ADN, que les virus avaient sans doute joué un rôle fondamental dans l'apparition de l'ADN. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les virus sont capables de modifier chimiquement leur génome pour, en fait, éviter les mécanismes de défense de l'autre. On connaît, chez les virus infectant les bactéries, de nombreux exemples de virus qui ont modifié leur base pour, justement, éviter les enzymes de restriction de leurs hôtes. Et donc, cette hypothèse que j'avais proposée, l'idée, c'est que les ribonucléotides réductases soit étaient apparus chez les virus, soit avaient été recrutés par des virus pour transformer leur génome, pour donner d'abord de l'ADN avec toujours de l'uracile. D'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est qu'on connaît des virus infectant les bactéries qui ont un ADN avec de l'uracile et pas de la thymine. Ensuite, invention des enzymes, d'ailleurs deux fois indépendamment, puisqu'on connaît deux types d'enzymes non homologues capables de faire le passage de la lettre U en lettre T. Et donc, apparition de virus à ADN qui, au départ, vont infecter des cellules ARN avec un avantage sélectif très fort. Et puis, bien sûr, les cellules vont trouver la parade, hein, c'est la course aux armements, ou l'arène rouge. Et à un moment donné, les cellules vont piquer l'ADN au virus parce que, finalement, c'est une molécule très stable par rapport à l'ARN qui a un certain nombre d'avantages en tant que matériel génétique. Alors, pour moi, qui ai travaillé pendant très longtemps sur la réplication de l'ADN, l'avantage de cette hypothèse, c'était d'expliquer quelque chose qui m'avait marqué depuis longtemps, c'est la diversité des systèmes de réplication en termes de machinerie protéique, la diversité des protéines dans le système de réplication, d'une façon générale, puisque, par exemple, les systèmes de réplication ne sont pas homologues chez les bactéries et les archées, mais également chez les virus, où on connaît un grand nombre de familles de virus différents qui ont chacune leur propre protéine de réplication. Une grande diversité. Et du coup, ça me paraissait assez logique de proposer une hypothèse out of viruses pour l'ADN, un peu comme l'hypothèse out of Africa. On sait que la diversité génétique de l'Homo sapiens est bien plus grande en Afrique que dans le reste du monde. Et on l'explique par le fait qu'il y a une sortie d'Afrique. Et c'est une partie seulement de la diversité qui se trouvait en Afrique qui s'est retrouvée en Eurasie et après en Amérique. Là, c'est pareil, en fait, une grande diversité de systèmes de réplication de l'ADN serait apparue dans le monde viral et deux systèmes seulement, j'y reviendrai, ont ensuite été transférés, l'un aux bactéries, l'autre aux archées et aux eucaryotes. Alors, cette hypothèse, il y a certains collègues l'ont bien aimée et d'autres l'ont détestée, ou tout de suite sont violemment opposés à cette hypothèse. Ça paraissait impensable que les virus aient inventé l'ADN. Alors, quand je mets inventé, bien sûr, c'est une métaphore, hein, c'est la sélection naturelle, c'est le Darwin, hein, mais c'est une métaphore. Pour beaucoup, les virus sont des objets moléculaires passifs, donc ils ne sont pas vivants, qui sont évolués par les cellules, et seules les cellules peuvent en fait inventer quelque chose. Et donc, c'est en partie en réfléchissant à ces réactions. Et puis également aidé par des réflexions, par exemple, de Jean-Michel Claverie, qui avait suggéré que l'usine virale du mimivirus serait le vrai virus, etc., combiné à un ancien article que j'avais lu d'André Lvov, dans lequel il disait que le virus transformait la cellule en usine virale, que j'ai proposé ce concept de virocell pour dire, en fait, la partie vivante du virus, c'est pas le virion, c'est la cellule infectée, alors que la plupart tous autant que nous sommes, depuis tout le temps, nous confondons le virus et son virion. Quand on nous montre un virus à la télé, on nous montre un virion. Que les premiers virus qui ont été isolés, c'était les virions qui passaient à travers un fil de porcelaine. Et puis on peut les voir en microscope, on peut illustrer un bouquin, etc. Donc aujourd'hui, je vais considérer que les virus sont des processus vivants qui se caractérisent par un cycle de reproduction. Ils utilisent les virions comme véhicule, mais finalement, là où ils expriment leur caractère vivant le plus, c'est dans la cellule virale. Donc finalement, ce sont des organismes cellulaires également, les virus. C'est ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde. Alors j'ai publié plusieurs papiers là-dessus et récemment j'étais très content pour la première fois, c'est d'autres collègues, des collègues israéliens qui ont publié un papier sur le métabolisme des virocelles. Alors si, de mon point de vue, l'intérêt de ce concept de virocelle, c'est surtout parce que j'avais réalisé que beaucoup de collègues, en particulier évolutionnistes, n'arrivaient pas à imaginer que les virus pouvaient créer leurs propres protéines. Automatiquement, toutes les protéines que l'on trouvait dans un génome viral devaient avoir été créées dans des cellules et ensuite récupérées par les virus, ou la grande majorité. Et en fait, j'ai mis ces deux papiers parce qu'ils me paraissent vraiment très, très importants. Donc, grâce à la génomique comparée, maintenant, les deux études qui ont été faites sur les levures et les drosophiles, on a vu finalement comment les nouveaux gènes apparaissent dans les génomes. Comment les nouveaux gènes apparaissent, on a des petits orphes qui sont par hasard traduits et puis qui vont apparaître, disparaître, et puis parfois ils vont coder pour un peptide intéressant qui va permettre la sélection de l'organisme. On va avoir des protogènes qui vont devenir des gènes. Donc on voit, et ça je pense que c'est très important dans les discussions avec les créationnistes ou les pseudo-créationnistes, je pense que c'est vraiment assez important que l'on ait pu voir comment aujourd'hui, en ce moment encore, se forme l'information, une nouvelle information génétique. Et tous ces mécanismes qui se produisent dans les génomes des cellules, il n'y a aucune raison qu'ils ne se produisent pas dans les génomes des virus. Donc, dans les génomes des virus, qui se répliquent encore beaucoup plus souvent que ceux des cellules, de nouveaux gènes vont apparaître continuellement. Plus les virus, d'ailleurs, auront des grands génomes, et plus on aura l'apparition de nouveaux gènes. Donc, il ne faut pas non plus s'étonner de trouver, par exemple, dans les virus géants, énormément de gènes qui ressemblent à rien, parce qu'ils ont été, de mon point de vue, il y en a certains qui sont effectivement peuvent être très, très anciens, mais d'autres ont été créés chez ces virus. Alors, une étape très importante au cours de l'évolution, ça a été le transfert de, si mon hypothèse est correcte, 5 minutes, ça va aller, le transfert de l'ADN vers les cellules. Alors on peut imaginer beaucoup de scénarios. Mon scénario préféré, disons, qui pour moi est le plus parcimonieux, c'est que ce transfert a eu lieu deux fois indépendamment, une fois donc chez les archaria. Alors les archaria, c'est le nom que je donne aux clades groupant archées et eucaryotes. C'est en discutant avec un collègue. Ce n'est pas un nom très joli, mais si vous avez d'autres idées, d'autres propositions, mais je pense que c'est important d'avoir un nom pour ce clade, j'y reviendrai. Donc, un système qui a été transféré aux archées et aux eucaryotes, un système qui a été transféré aux bactéries. Si ce modèle est correct, ça veut dire que Luca était encore une cellule du monde ARN. Vous voyez, mais ça, c'est quelque chose à discuter. Tout le monde n'est pas d'accord. Certains collègues imaginent que ça paraissait assez évident que puisque tous les organismes vivants actuels ont de l'ADN, Lucas devait avoir de l'ADN. Mais il y a ce problème quand même d'avoir des systèmes de réplication non homologues dans ces deux groupes. Alors récemment, on a fêté le 20e anniversaire de Lucas. Le nom de Lucas a été imaginé lors d'un colloque au Treil en 1996. Et là, cette année, on a fait le colloque pour le 20e anniversaire. Alors, ce qu'il en est ressorti pour moi, j'en arrive à l'idée d'un Lucas assez simple. Pour ceux qui connaissent, je me rapproche un petit peu du modèle du progénote de Carl Hughes. Par exemple, on sait qu'il existe 34 protéines universelles dans le ribosome. Et, très frappant, 33 protéines communes aux archées et aux eucaryotes. Alors pendant très longtemps, j'avais tendance à aimer un Lucas assez complexe, avec peut-être que ces protéines archéocaryotes qui auraient été perdues chez les bactéries. Mais en fait, maintenant, on connaît tellement de systèmes moléculaires dans lesquels les archées et les eucaryotes se ressemblent, que si on veut imaginer un Lucas complexe de type archéocaryote, il faut imaginer énormément de ce qu'on appelle des remplaçants non homologues chez les bactéries, et ça me paraît pas réaliste. Ce qui me paraît le plus réaliste, c'est d'imaginer qu'effectivement, Lucas avait un ribosome, avec une quarantaine de protéines au lieu des 60-80 protéines qu'on a dans les ribosomes actuels. Donc Lucas avait un génome ARN et des ribosomes plus simples que les ribosomes actuels. Et dans ce cas-là, eh bien, on est amené aussi à enraciner l'arbre universel dans la branche entre Lucas et les archéocaryotes, parce que bon, on a finalement un modèle qui est relativement simple dans lequel on part d'un Lucas avec des ribosomes à 34 protéines, on rajoute des protéines au fur et à mesure de l'évolution, alors que dans l'autre modèle, si on part avec un LUCA contenant les protéines comme une archéocaryote, eh bien, il faut d'abord enlever 33 protéines chez les bactéries pour en rajouter 23 nouvelles. Ça paraît plus compliqué. Donc, l'idée, c'est que LUCA n'était pas une cellule moderne. Il avait des ribosomes plus simples, un génome ARN. Il n'avait pas d'ATP synthase. Pourquoi il n'avait pas d'ATP synthase ? Parce que, en fait, la molécule qui est essentielle pour faire, pour ceux qui connaissent, pour faire pivoter l'ATP synthase, n'est pas homologue chez les bactéries d'un côté et chez les archéocaryotes de l'autre. Et donc, plusieurs auteurs, dont en particulier Kounine et ses collaborateurs, on en déduit effectivement que LUCA n'avait sans doute pas d'ATP synthase. Il n'y avait peut-être pas non plus de facteurs d'initiation pour la transcription, parce que les facteurs d'initiation pour la transcription ne sont pas les mêmes non plus chez les bactéries et les archéocaryotes. Alors voilà, donc c'est encore très hypothétique, mais c'est une vision qu'on peut avoir d'un LUCA encore assez simple. Et il n'était pas quand même complètement si simple que ça, parce qu'il possédait quand même des protéines très importantes qui sont impliquées dans des modifications de l'ARN de transfert essentielles pour avoir une fidélité, une grande fidélité de la traduction. Donc il était capable de faire des protéines très sophistiquées, aussi sophistiquées que les protéines actuelles. C'est ce qui n'était pas l'idée de Carlouze. Donc un LUCA simple, mais pas aussi simple. Je ne vais peut-être pas avoir le temps de discuter de la température à laquelle vivait LUCA. C'est un travail simplement assez important qui a été fait en France, à Lyon, par l'équipe de Manolo Gui. Il y a eu plusieurs papiers qui suggèrent un LUCA simple, c'est un LUCA mésophile. Ça a été contredit cette année par un papier publié par Bill Martin et son groupe dans Nature Microbiology, dans lequel il dit que LUCA possédait la révergirase, donc ça devait être un hyperthermophile. Ce papier est très mauvais, juste pour vous dire que là, vous avez un arbre de la révergirase, en bleu les bactéries, en rose les archées, et Bill Martin dit que les deux forment deux groupes monophylétiques. On ne voit absolument pas comment on peut avoir deux groupes monophylétiques avec ce résultat. En fait, très clairement, la révergirase n'était pas chez LUCA. On pense qu'elle est apparue chez les archées, qu'elle a été transférée aux bactéries. Ça a fait un monstre dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est un travail d'un postdoc du labo qui étudie la phylogénie très poussée de la révergirase. Ça, c'est juste pour comparer. Quand on a une protéine universelle vraiment qui était chez LUCA, c'est la protéine dont je parlais juste avant qui modifie le tRNA pour la traduction. On voit que là, on a vraiment la monophylie d'un côté des bactéries et des archées. Quelque chose de très particulier dans le travail qui a été fait par Manuel Gouy, c'est de montrer que, alors que LUCA, lui, était mésophile, il semble que l'ancêtre des archées et l'ancêtre des bactéries étaient un thermophile. On ne sait pas pourquoi, mais ça, c'est un point quand même assez intéressant. Donc, ça m'a rappelé une hypothèse que j'avais proposée en 1995, où finalement, à l'origine du phénotype procaryote, il y avait l'adaptation aux températures, puisque les procaryotes, archéobactéries, se caractérisent par le fait d'avoir un renouvellement rapide de leurs macromolécules, une petite taille, etc. Couplage de la traduction et de la transcription, des caractères qui finalement sont intéressants à haute température, puisque l'ARN messager, par exemple, est très fragile. Donc ces deux dernières diapos, si LUCA n'était pas un procaryote, au sens où les archées et les bactéries sont des cellules procaryotes relativement évoluées, ça veut dire finalement que l'apparence procaryote des archées et des bactéries, c'est peut-être une convergence évolutive, hein, comme le loup de Tasmanie et le loup européen, qui n'appartiennent pas du tout aux mêmes branches du monde animal, mais qui se ressemblent beaucoup. Donc l'idée, c'est que peut-être, en fait, c'est une convergence évolutive qui a conduit à ce phénotype procaryote chez les bactéries et les archées. Et donc ça, c'est ma dernière diapo. C'est l'arbre universel, mon arbre universel préféré à l'heure actuelle. Donc, je pense que pour ceux qui ont entendu parler du Loki arché, qui serait un intermédiaire entre les archées et les eucaryotes, ça fait un an qu'on travaille dessus avec deux postdocs. L'article paru dans Nature est vraiment très mauvais. La base de données est complètement contaminée. On a refait les analyses et on retombe sur l'arbre de Woose. C'est pour ça que je pense qu'il est important de trouver un nom pour le clade regroupant les archées et les eucaryotes. On a proposé ce nom, donc Arcaria. Voilà, avec en jaune l'apparition de l'ADN, une hypothèse, et je crois, alors ça c'est le transfert de la mitochondrie, donc il n'arrive pas, c'est pas la fusion entre une bactérie et une archée, ça je pense que c'est un modèle qui ne tient pas la route, c'est vraiment la mitochondrie qui arrive chez un proto-eucaryote, le chloroplaste, Ça, c'est quoi? C'est la. Non, c'est un travail fait par une postdoc récemment. C'est les plasmides conjugatifs de Firmicutes qui auraient été transférés aux archées avant la diversification des archées. Si c'est correct, ça voudrait dire que la diversification des bactéries s'est faite avant la diversification des archées. Et là, c'est l'adaptation à très haute température. Merci. Désolé.
Alors, on a un petit peu de temps pour quelques questions. Oui, il y en a une tout au fond là-bas, en droite.
Merci encore. Je me demandais s'il restait assez d'informations chez les virus qui évoluent très très vite pour se faire une idée de la population autour de Lucas, des traits qu'il y avait dedans, ou est-ce qu'il reste rien du tout, tout a été changé depuis lors?
Oui, en fait, on entend toujours, on dit toujours que les virus évoluent très très vite, mais ce n'est pas entièrement vrai en fait. Ça dépend des régions du génome. Ce qui évolue très vite, c'est par exemple les virus ARN qui effectivement évoluent rapidement. Et encore, en fait, on arrive quand même à retrouver des similarités structurales entre les réplicases des virus ARN de bactéries et des virus ARN qui infectent les eucaryotes. Donc ce qui va évoluer très rapidement, par exemple, c'est les récepteurs, les protéines qui vont être dans la course aux armements avec les cellules. Mais par exemple, les machineries de réplication chez les virus évoluent relativement lentement. En fait, pas beaucoup plus vite que celle que l'on observe dans le cas des cellules. C'est quelque chose qui est pas, on ne peut pas vraiment le quantifier facilement, mais très clairement, on arrive au niveau, par exemple, des protéines de capsid dont j'ai parlé. Alors, c'est intéressant, c'est que quand vous prenez une protéine de capside d'un virus infectant une archée, par exemple, vous n'allez pas trouver de similarité de séquence avec la protéine de capside. Du virus infectant la bactérie, mais quand vous aurez la structure tridimensionnelle, vous voyez qu'elle va être pratiquement identique. Donc, on arrive à, même dans ce cas-là, on arrive à identifier les homologies par la structure tridimensionnelle. Donc, il reste encore suffisamment d'informations pour remonter même au-delà de Lucas, dans le cas de ces familles de grandes familles de virus.
Oui, devant.
Oui.
Ah, pardon, excusez-moi.
Oui, merci pour cet exposé. Ça secoue vraiment l'esprit d'imaginer ce Lucas sous forme d'ARN. Donc, ça demande encore pas mal d'intégration. Mais je me demandais d'une part, j'ai une question vraiment très naïve sur la stabilité, c'est-à-dire si les mésophiles, enfin, si ce génome est suffisamment grand pour avoir toute cette complexité, mais qu'il est composé d'ARN. Moi, ce que j'ai toujours pensé, enfin, ce qu'on m'a toujours dit, c'est que justement le passage à l'ADN avait permis une stabilité. Donc, est-ce que ça, c'est compatible avec un génome d'une telle taille? Et alors, il y a une autre question qui est concernant la représentation, donc sur votre arbre préféré. En fait, en 2004, il y a Ribera qui a proposé une représentation sous forme de l'anneau de la vie, puisque on pense aujourd'hui que les eucaryotes, effectivement, bon, ils proviennent des archées, mais d'une archée qui a. Bénéficier de la symbiose d'une bactérie qui se retrouve dans les mitochondries et donc il proposait de représenter ça sous forme d'un anneau. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette représentation-là?
Alors, sur la deuxième, moi je suis complètement contre. C'est un point très très important, mais bon, il aurait fallu que j'aie un quart d'heure de plus là. En fait, c'est très important de savoir si les eucaryotes proviennent du nid d'archées ou si les eucaryotes et les archées présentent un ancêtre commun. Je peux juste alors aller très vite sur une des diapos. Ouais. Voilà, alors on a fait une analyse, je pense que c'est un travail fait par un postdoc, Morgan Gaia, du labo et sur la phylogénie des ARN polymérases. On a vraiment pris 40 organismes dans chacun des trois domaines en essayant d'avoir une bonne représentation des différents phylums à l'intérieur des domaines. On a enlevé tous les organismes qui évoluent rapidement, ce qui est très important, ce que ne font pas les gens aujourd'hui qui font de la phylogénie moléculaire et qui présentent des modèles dans lesquels les eucaryotes sortent des archées. C'est-à-dire que dans leur jeu de données, il y a en général beaucoup de ces organismes qui évoluent très très rapidement et qui faussent complètement les résultats de l'analyse. On a appliqué les méthodes de phylogénie moléculaire bayésienne là, les plus performantes, mais en fait, ça donne le même résultat que des méthodes moins performantes. Et on a clairement la monophylie des trois groupes avec un ancêtre commun archée eucaryote. Donc personnellement, et là c'est maintenant c'est étayé pour moi par un an de boulot avec deux postdocs, je suis assez clair, je suis assez confiant dans le fait que l'arbre de Woos est correct. Mais je suis un peu le seul actuellement, je dois dire, parce que tous les évolutionnistes qui travaillent dans le domaine se sont ralliés à l'idée de Jim Lake, en fait, qui depuis les années 1980, selon laquelle les archées sortiraient, les eucaryotes sortiraient des archées. Et en fait, ça voudrait dire que les archées sont des fossiles vivants. Les archées n'auraient pas... puisque dans le papier publié dans Nature, je vais quand même vous montrer le papier publié dans Nature, les archées, les eucaryotes, sont groupes frères d'un des trois Loki. C'est-à-dire que l'ancêtre commun des Loki est l'ancêtre commun est notre ancêtre. Nous sommes dans cet arbre, nous sommes des Loki. Et les Loki, depuis 2 milliards ou 3 milliards d'années, n'ont pas évolué, alors que les eucaryotes ont donné, etc. Oui. Si on prenait cet arbre au pied de la lettre. Mais en fait, on voit, quand on connaît un peu l'histoire, que les archées sont racinées dans Metanopyrus candleri, qui est une archée qui évolue comme une malade. Les DPANN, c'est des petites archées parasites qui également évoluent comme des malades. Donc, on voit tout de suite qu'il y a des problèmes avec cet arbre, bien qu'il soit publié dans Nature.
J'aimerais préciser cette question, parce que je ne suis pas sûr que ça répond à ma question. Moi, je n'ai pas dit que les...
Ce génome était 45% contaminé.
Excusez-moi. J'ai pas dit que les eucaryotes dérivaient des, enfin que sortaient des archées. C'est pas du tout ça l'idée, je pense, de Ribera. L'idée de Ribera, c'est que la représentation même par un arbre ne permet pas de représenter un phénomène de chimérisme ou de chimérisme. Et donc lui, ce qu'il propose, c'est à peu près ceci, sauf que la branche, les eucaryotes, ils se retrouvent. Il y a de la convergence, voilà. Et ça, ouais. Les méthodes bayésiennes, il me semble, elles seraient, le fait que votre méthode bayésienne vous donne un arbre qui est parfaitement cohérent, elle ne peut pas faire autrement, il me semble, parce qu'elle ne peut que produire des arbres. Donc l'idée de Ribera, c'est qu'il faut aller au-delà de la représentation arborescente pour pouvoir se permettre de représenter des phénomènes comme le chimérisme qui est arrivé au moment où la mitochondrie est apparu, et également au moment où les chloroplastes sont apparus, etc. Donc est-ce que...
On va juste, parce que là ça devient très intéressant, certes, mais il y a des heures, et là on va nous enfermer dans l'amphi maintenant. Donc je préférerais qu'on sorte dans l'amphi, qu'on aille ensemble au cocktail qui est prévu, vous verrez, au rez-de-chaussée du château, pour qu'on puisse